sujet de discussion.
Et nous rentrons justement dans ce magazine sujet de discussion sur Radio de la Paix. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation aux médias et à l'information dans un monde où les images dominent, où les contenus audiovisuels fusent de toutes parts et avec l'avènement de nouvelles technologies ou des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, il devient essentiel d'éduquer les jeunes à décoder, à analyser, à interagir de manière responsable avec les informations qu'ils reçoivent au quotidien. La surabondance d'informations et l'émergence de nouvelles formes de manipulation médiatique posent des défis majeurs pour nos sociétés. Plus que jamais, l'éducation aux médias et à l'information, en abrégé EMI, s'impose comme un pilier fondamental pour armer les jeunes d'esprit critique et les préparer à une consommation éclairée et éthique des médias. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir des membres de l'association bénévole d'EMI. Alors, ce sont des bénévoles, entendez par EMI, éducation aux médias et à l'information. Et nous avons Kanga Ingessan Amouin Aristide. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Vous avez le punch ce matin, ça
oui,
se sent là?
Très enjoué.
Ah, c'est super. Alors, c'est intéressant et ça augure d'une très belle émission.
Tout à fait.
Vous êtes formatrice également.
Bien sûr.
Voilà, et vous travaillez beaucoup à l'endroit des jeunes et votre site. Bien évidemment, on va avoir plus d'amples informations sur tout ce travail que vous abattez au quotidien. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Fulgence Kofi, qui est aussi membre de l'EMI, hein, des bénévoles de l'EMI, c'est ça. Voilà, bonjour Fulgence.
Allez-y. Bonjour monsieur.
Voilà, super. Bonne arrivée à Radio de la Paix.
Merci.
C'est un honneur de vous recevoir et ensemble nous allons échanger, comme je le disais, sur ces questions clés de l'éducation aux médias et à l'information. Nous allons explorer le rôle de cette association qui a été montée, mais comment elle a été montée, l'historique, et nous parlerons de tous ces points importants. Avec vous, Aristide Kanga, nous allons bien évidemment commencer de plein pied dans ce sujet. Que comprendre par éducation aux médias? Que comprendre par cette notion?
Déjà, si vous me permettez, je vais saluer nos auditeurs et auditrices et remercier la Radio de la Paix de nous inviter aujourd'hui pour pouvoir échanger sur ce sujet. Donc, parler d'éducation aux médias et à l'information, c'est tout simplement un programme qui a été mis en place afin de pouvoir permettre aux populations de pouvoir utiliser de façon responsable les médias. Parce que nous sommes sans ignorer qu'avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, beaucoup de désordres se sont invités, notamment la désinformation, la mésinformation, la malinformation, la mauvaise utilisation même des médias. On va parler aussi du cyberharcèlement, de la cybercriminalité et autres. Donc il est aussi important de pouvoir former, sensibiliser, informer les populations sur ce que c'est, quels sont les contenus de ces médias-là. Et c'est vrai que quand on parle de médias, bon, de façon générale, on a les médias traditionnels, on a les nouveaux médias, mais également, il faudrait qu'on puisse essayer de voir aussi tous ces créateurs de contenu. Comment je peux appeler ça aussi? Notamment, on va parler des bibliothèques, qui sont aussi des espaces qui amassent les connaissances. Quand on va à la bibliothèque, ce sont des milliers de livres qui se retrouvent, c'est l'intelligence même qui se retrouve. Donc l'éducation aux médias et à l'information va nous amener à pouvoir comprendre cet environnement-là. L'éducation aux médias et à l'information va nous permettre aussi de pouvoir comprendre les créateurs de contenu, comment est-ce qu'ils fonctionnent, comprendre même le système de création de l'information, comment est-ce que l'information fonctionne, c'est quoi même une information en vrai. Donc c'est tous ces éléments-là que l'éducation aux médias et à l'information va permettre aux citoyens de pouvoir comprendre afin de pouvoir utiliser de façon responsable et très éclairée les médias.
Mmh. Alors vous, Fulgence Kofi, alors quelle est votre histoire avec le lien que vous avez avec cette association, les bénévoles de l'éducation aux médias et à l'information?
D'accord. Mon histoire, moi, est pratiquement l'histoire de plusieurs jeunes, étant donné que l'éducation médiale et l'information émergent dans le contexte ivoirien, particulièrement avec la période de la COVID. Mmh. On a tous été témoins de tout ce que les réseaux sociaux ont engendré pendant cette période. Et là, tout de suite, j'ai été motivé à véritablement me former pour ne pas tomber dans le jeu de la désinformation. Et c'est de là que sur les réseaux sociaux également, j'ai vu l'invitation des bénévoles de l'éducation aux médias et à l'information. Mmh. Et tout de suite, j'ai senti l'appel et j'ai trouvé les moyens de rentrer en contact avec les responsables. Et depuis lors, Je chemine avec les bénévoles de l'éducation média et l'information et j'avoue que j'apprends beaucoup et désormais, en tant qu'engagé, je sais maintenant d'apporter aussi ma contribution pour faire passer ce message-là.
Voilà, voilà qui est bien dit. Hein. C'est vraiment intéressant et ça montre que vous avez beaucoup de choses aussi à nous partager ce matin. Ouais. Nous allons bénéficier de votre présence et pour pouvoir éclairer la lanterne des auditeurs et auditrices qui nous suivent en ce moment. Mmh. Alors avec vous, Kanga Aristide, alors, comment est née cette association ? Parce que tout part hein, des activités qui se font, mais qui partent d'une association qui existe et a forcément un déclic. Parlez-nous-en.
Ça fait toujours plaisir de reparler de comment est-ce que les bénévoles d'éducation média et l'information, cette organisation que je chéris tellement, est née. Il faut remonter à 2019 où l'UNESCO Abidjan décide d'organiser une activité de formation, d'éducation des jeunes sur l'importance de développer son esprit critique. Et donc ces jeunes-là qui se rendent à Yamoussoukro pour pouvoir bénéficier de cette formation décident de pouvoir mettre en place une organisation qui va pouvoir continuer dans cette action de l'UNESCO et ne pas seulement se limiter à juste une formation qui a été faite. Et donc c'est dans ce cadre-là que les bénévoles d'éducation média et l'information voient le jour. Je veux parler de l'association. Et donc c'était au temps, je crois, de Madame Anne Lemestre qui était représentante du bureau UNESCO Abidjan en son temps. Et donc dès que la formation a été faite avec l'UNESCO, quand nous sommes revenus à Abidjan, il y a eu Madame Evelyne Débat qui est journaliste, qui a décidé de pouvoir, parce qu'elle était chargée de communication au niveau de l'UNESCO, de pouvoir former ces jeunes qui étaient essentiellement composés de jeunes étudiants, mais également de journalistes et d'autres individus, d'autres jeunes qui ont eu l'amour pour cette question-là et ont décidé de pouvoir développer leurs compétences et se former évidemment dedans pour pouvoir aussi sensibiliser leurs pairs. Et donc, dès que l'année 2019 s'achève, on rentre en 2020, où on commence à vérifier certaines informations, notamment, je crois que tout à l'heure, Féjean se parlait de la vidéo qui, malheureusement, a quand même créé beaucoup de tensions ici en Côte d'Ivoire avec l'histoire des Nigérians et des Ivoiriens. Et moi, c'est à partir de là, personnellement, que je commence à m'engager au sein de cette organisation véritablement. Et donc, on vérifie ces informations-là, on se rend compte que, ah ben tiens, c'est pas une vraie information. Donc, passé cette étape, on se dit, mais il faut pouvoir continuer parce que ce qu'on a commencé à faire, c'est aussi important. Donc, formation après formation, on commence maintenant la formation de pair. Et à partir de 2021, on commence avec des projets. Parce qu'en ce temps, on avait l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui a commencé à financer des projets dans le domaine de la lutte contre la désinformation. Donc, on fait un projet en partenariat avec le bureau UNESCO et le ministère de la communication qu'on a appelé EMITOUR, qui était un projet de sensibilisation dans plus de 7 universités publiques de Côte d'Ivoire, notamment l'université de Cocody, d'Aloa, l'ISTC et autres. Et au sorti de là, on a plus de 2000 jeunes ivoiriens et autres qui résident sur l'espace ivoirien qui sont formés à l'EMI. Et donc, d'autres ont décidé de s'ajouter à nous pour pouvoir continuer dans cette lutte. Donc, dès qu'on finit, on bénéficie du projet de l'OIF qui nous permet aussi de pouvoir former des jeunes, mais non pas seulement de ces jeunes, mais des leaders d'organisations de la société civile. Donc, on invite ces leaders-là. Et c'est un projet de jumelage qui nous permet de pouvoir, en même temps, recevoir, on va dire, l'expérience d'autres pays, notamment le Cameroun et le Burkina, parce que c'est avec ces deux pays que nous avons initié le projet de jumelage. Donc, une fois que ce projet de jumelage est fait, les Camerounais viennent ici, les Burkinabés viennent ici. Également, on a des équipes qui vont également au Burkina et au Cameroun. On a eu la formation des différents leaders d'organisation. Et nous-mêmes, en tant que bénévoles, parce qu'il faut aussi dire que c'est vrai qu'on met l'accent sur les autres, mais on a toujours cette petite lucarne où on permet à des membres de notre organisation de pouvoir développer leurs compétences, histoire aussi à leur tour de pouvoir toujours continuer cette formation. Donc, dès que c'est fait, on a d'autres projets, notamment celui sur lequel nous sommes actuellement, qui est le projet des Infox Jeunesse, qui est financé par Canal France International, un projet qui permet de pouvoir former des formateurs. Sur quoi ? La création de ressources pédagogiques. Et je crois que Fulgence même qui est là en est bénéficiaire. Et donc actuellement, nous ne nous limitons pas seulement à former avec des PowerPoint et autres, mais nous sommes maintenant dans, on va dire, l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique, qui nous permet de pouvoir produire même des ressources pédagogiques, de sorte à ce que, en dehors de nous, vous, quelqu'un d'autre qui aime cette question-là, puisse utiliser même un éducateur, un formateur, ce formateur-là pourra utiliser les ressources que nous sommes en train de produire pour pouvoir aller former d'autres personnes. Donc vraiment, de 2019 à 2024, c'est une panoplie de formations, grand public, formations, ateliers que nous avons eu à faire. Et vraiment, on est quand même assez satisfait de ça.
C'est cela. Alors, Fulgence, vous, la satisfaction, elle est à quel niveau dans cet élan-là, dans cette dynamique ?
Je dirais que ma satisfaction est également très, très intéressante et très, très rehaussée parce que j'entre dans cet univers avec un niveau, on va dire, zéro. Et à présent, je suis niveau formateur, ça veut dire que j'ai un parcours. Et nous ne sommes pas encore au terme de notre parcours. Et donc, il y a encore des niveaux que nous voulons véritablement gravir. Et c'est, ça sera véritablement intéressant que les jeunes comme nous puissent véritablement prendre cette question au sérieux. Parce que essentiellement, quand on dit réseaux sociaux, on pense généralement jeunesse. Et donc, les jeunes doivent se faire former, doivent véritablement s'intéresser à la question de l'éducation média à l'information pour pouvoir mieux consommer l'information et pour pouvoir aussi être acteur de changements positifs.
Mmh. Et qu'est-ce qui peut attirer les jeunes à venir vers ces formations? Alors, dans votre stratégie, il y a sûrement des éléments comme ça, comme des APA, pour amener les jeunes à s'intéresser à ces formations. Parce que c'est pas évident, hein. La formation existe, mais si les jeunes n'ont pas l'information, alors comment ces jeunes-là peuvent procéder justement pour avoir accès à toutes ces informations concernant ces formations que vous donnez?
Déjà, nous avons une force qui est aujourd'hui les réseaux sociaux. Mmh. Donc, nous utilisons les réseaux sociaux au maximum pour pouvoir communiquer et surtout parce que nous sommes jeunes. Et parce que nous sommes jeunes, nous maîtrisons quand même ces nouveaux outils-là et c'est eux que nous utilisons dans un premier temps. Et de façon générale, quand on a une formation, on essaie de demander aux gens de pouvoir partager au maximum. Et il y a un accent sur lequel nous mettons beaucoup, l'accent sur un élément.
Sur lequel vous insistez.
Voilà. Lorsque nous avons fait le projet de sensibilisation MeToo, nous avons instauré des clubs dans ces différentes universités, ce qui nous permet de pouvoir avoir des jeunes qui sont représentés dans d'autres espaces, pour que lorsque nous sommes en train de faire une activité, ces jeunes-là soient des relais d'information, aussi bien sur Internet, mais également dans leur communauté et autres. Donc ça, par exemple, c'est un élément important que nous utilisons. Voilà. Donc, en dehors de ça, quand nous avons une formation, quand nous avons un atelier et autres, comme j'ai dit, ce sont les leaders de certaines organisations que nous invitons. Et quand c'est comme ça, de façon générale, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'une fois que moi, en tant que leader, je sais, c'est mon organisation qui est informée parce que je vais faire la communication, je vais informer mes membres. Et donc, c'est beaucoup plus facile. Et en dehors de ça, nous invitons, parce qu'ici en Côte d'Ivoire, il y a d'autres organisations qui sont également dans ce domaine. Donc, quand nous avons des activités, nous les associons, nous les invitons de sorte à ce qu'ils puissent participer. Voilà.
C'est ça. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de défis. Hein. On parlait dans l'introduction, aujourd'hui avec la technologie de pointe, l'intelligence artificielle. Vous voyez que chaque année, il y a des défis qui arrivent, de nouveaux défis, bien évidemment, auxquels les jeunes sont confrontés et qui viennent davantage agrandir ou nourrir cette question-là, justement, de la pluralité des informations visuelles et tout cela. Alors, aujourd'hui, face, par exemple, à la désinformation et ses effets, comment la désinformation et les fausses informations se propagent et affectent les jeunes? Comment vous analysez cela et comment vous attaquez ces problèmes? Bon, je vais déjà donner la parole à Fugence sur ce point et après Aristide pourra mieux nous éclairer aussi sur ce point.
Concernant les impacts de la désinformation, il faut dire que ces impacts-là sont véritablement dus au fait de l'incapacité de certaines personnes à pouvoir consommer de façon responsable l'information. L'information, dans le contexte actuel avec la nouvelle technologie, ne doivent pas être pris comme une parole de l'Évangile. Voilà. Donc, il faut avoir cette habitude d'avoir du recul face à l'information de manière à pouvoir apprécier le contenu qui nous est donné. Et étant donné que nous avons la capacité de critiquer le contenu qui nous est donné, on pourra véritablement savoir si ce contenu est fiable ou pas. Et si le contenu n'est pas fiable, nous saurons véritablement l'attitude à adopter. Donc, face, on va dire, à la désinformation qui est aujourd'hui bat son plein, le défi véritable qu'il y a, c'est de permettre aux jeunes de véritablement s'outiller en matière d'information, de connaissance, de maîtrise des différentes technologies qui sont aujourd'hui à leur portée, de manière à pouvoir les utiliser plus sainement.
Voilà, donc la stratégie, c'est de les amener à maîtriser ces outils-là, pour pouvoir avoir l'information vraie, ouais, juste et tout cela. Alors, avec vous, Kanga Aristide.
Ce que je dis généralement, et ce que les experts même dans le domaine le diront, c'est que quand on parle de fausses informations, de désinformation et autres, l'aspect est beaucoup mis sur les émotions. pour pouvoir manipuler une personne, de façon générale, il faut jouer avec ses émotions. Si moi, je sais que Fulgence, par exemple, c'est une personne qui aime s'emporter lorsqu'on parle peut-être de son ethnie et que je veux créer peut-être, je veux créer peut-être des tensions, je vais jouer sur cela parce que je sais que quand je vais toucher sur les questions ethniques, ça va tout de suite toucher à Fulgence. Et le deuxième aspect, c'est le manque de connaissances. Ces deux aspects-là font que généralement, que qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, adulte et autres, même les intellectuels, nous entrons facilement dans ces jeux-là. Et donc, oui, effectivement, on peut dire que ce sur quoi, dans notre stratégie, nous mettons l'accent, c'est la formation. Parce que la formation, elle est importante en ce sens que nous allons peut-être revenir sur un certain nombre d'aspects, dire par exemple c'est quoi un média, comment est-ce que le processus se fait pour pouvoir donner une information, quel est le rôle du journaliste, quel est le rôle par exemple de celui qui crée du contenu, est-ce que par exemple lui et le journaliste, ils ont les mêmes rôles, en quoi est-ce qu'ils sont différents. Donc toutes ces différentes informations vont permettre aux jeunes qui sont en face de pouvoir comprendre, mais attention, si je veux avoir une information, je me tourne vers un journaliste. C'est vrai que bon, après, la question même du journaliste qui donne l'information, ça revient encore forcément parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que parfois, même dans la manière même de présenter l'information, il y a une certaine forme de manipulation même qui vient de la part de ces journalistes-là. Ce qui a créé, on va dire, ce manque de confiance que finalement, on se retrouve tous à être sur les réseaux sociaux pour s'informer. Mais bon, après aussi, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Donc, on essaie de pouvoir en tout cas attirer l'attention des gens sur cela.
C'est cela. Et parmi ces personnes qui bénéficient au quotidien de vos formations, de vos activités, nous avons Alalo Koulibaly qui est avec nous en ligne. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Comment vous allez ce matin ?
Ah oui, super bien. Et chez vous ?
Oui, ça va très bien. Alors, vous allez nous parler de votre expérience avec l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information.
Ok, il faut dire, j'ai connu cette organisation à partir de 2019, et même la mise en place de cette organisation pour pouvoir lutter contre les fausses informations. Mmh. Et depuis lors, j'ai bénéficié de plusieurs formations et moi-même, je fais partie aussi des membres aussi. Donc, cela m'a vraiment m'a permis de voir, cultiver un peu mon esprit critique.
C'est ça.
Je suis pas sensibilisé aussi. Les personnes autour de moi, même si on ne peut pas, comment on peut signer avec les forces nouvelles, mais au moins, on peut réduire au moins le nombre. Donc, c'est comme ça qu'on fait la sensibilisation auprès des personnes et aussi auprès des jeunes. Parce que c'est eux qui sont beaucoup connectés sur Internet.
C'est cela.
Donc voilà un peu mon expérience dans l'EMI.
Ok, alors au quotidien, comment vous vous comportez désormais quand vous vous réveillez le matin face à certaines fausses informations? Alors quel est le premier réflexe que vous avez et puis comment est-ce que vous impactez aussi votre communauté désormais?
Ok, il faut d'abord à la maison, chaque fois il y a une information sur Internet, mes cousins vont me demander est-ce que qu'on a vu là, tu es sûr que ce qu'ils disent là c'est vrai? Parce qu'à chaque fois, je les parle, quand vous voyez une information sur Internet, il est important de pouvoir vérifier si vraiment elle est authentique. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut créer une information et puis ça va créer le buzz. Donc, il faut faire attention à tout ce que nous voyons sur Internet. Donc, pour dire que le fait même de les dire, de faire attention, c'est comme si je venais une réponse pour vous, parce que quand il y a une information, même si je ne suis pas à la maison, on m'envoie un message, mais j'ai vu tel chose, c'est sûr que ça là c'est vrai. Donc déjà, c'est déjà un impact déjà. Et en plus de ça aussi, les sensibilisations qu'on fait dans les lycées ou encore dans les universités, tout ceci permet pour pouvoir vraiment impacter de façon positive notre communauté, afin qu'on puisse vraiment avoir des citoyens éduqués, des citoyens responsables qui vraiment qui sont les ambassadeurs de l'EMI et aussi propage des bonnes informations pour pouvoir au moins contrer les fausses informations sur Internet.
C'est cela. En tout cas, merci pour ce partage d'expérience, Alalo Koulibaly. Merci infiniment. Et puis, restez à l'écoute de Radio de la Paix. Portez-vous bien.
Je vous remercie.
Okay. Voilà. Alors, on écoutait là ce témoignage. Et c'est un peu comme ça avec les membres de l'association et des personnes qui bénéficient de vos formations. Et puis, ce qui est intéressant, j'ai l'impression qu'après chaque formation, vous recrutez. Hein, des gens intègrent l'association et qui s'agrandit au fil du temps. Alors, Fulgence.
Oui, c'est effectivement ce qui est intéressant avec l'éducation média, l'information, parce que c'est une question qui est vraiment d'actualité. Et quand le jeune se reconnaît dedans, il ne peut plus s'en passer. Et on aura certainement l'occasion de revenir là-dessus. Les formations sont aussi pratiques que théoriques. Quand nous essayons, par exemple, d'aborder la question de la vérification de l'information, quand le jeune lui-même peut vérifier l'information, vérifier la fiabilité d'une image, quand lui-même se rend compte de ce qu'il peut apporter à son niveau, véritablement, ça, c'est une source de motivation et ça nous permet de grandir en nombre et d'avoir des personnes qui sont aussi décidées à nous accompagner.
Mmh. Oui, Kanga Aristide, là-dessus.
Ça fait également partie de la stratégie de pouvoir, je n'inscris pas ce que Fulgence vient de dire en faux, c'est complètement cela. C'est complètement cela parce que, de façon générale, nous les jeunes, nous sommes très motivés, surtout lorsque nous nous retrouvons dans un domaine qui nous parle. Mmh. Et aujourd'hui, on parle des médias. On est tous utilisateurs d'Internet au travers des réseaux sociaux. Donc, quand on dit il y a des dangers lorsqu'on utilise les réseaux sociaux, surtout parce qu'il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles viennent se retrouver sur ces plateformes avec nous, n'ont pas la même intention que nous. Donc, il faut pouvoir faire attention. Quand on parle de la protection des données à caractère personnel en ligne, quand on parle du cyberharcèlement, il y a certains jeunes qui se sont fait harceler en ligne. Et donc, ce sont des questions, lorsqu'on aborde avec les jeunes, ils se disent, ah ben tiens, c'est vraiment... Il y a cette solidarité entre les jeunes et on se dit, c'est bien, et c'est un domaine qui est nouveau pour nous. On ne maîtrise pas forcément, donc les jeunes s'intéressent. Et puis, ça nous permet de pouvoir avoir des jeunes à ajouter à notre équipe, à continuer aussi la formation. Et puis, surtout qu'on leur permet d'être à leur tour formateurs pour aller former d'autres jeunes. Donc, je pense que de ce côté-là, notre pari, il est gagné.
Mmh. Alors, et comment vous arrivez à développer un esprit critique chez les jeunes, Fulgence?
Cette question-là, l'esprit critique en lui-même est véritablement la base de la communication, on va dire en général, parce que l'esprit critique est un élément à prendre en considération quand on veut faire véritablement de la communication et particulièrement du journalisme. Et donc, l'esprit critique, on l'aborde comme une thématique centrale. Et là-dessus, il y a certainement le volet théorique qu'on pourra aborder, mais ce qui est intéressant avec l'éducation médiale et l'information, il y a aussi l'aspect pratique. On développe l'esprit critique par la pratique, par la maîtrise de certains outils, des outils qui sont à la portée de tout un chacun d'entre nous. Et si nous nous intéressons véritablement, ça sera une chose qui n'est pas une donnée en tant que telle, parce qu'il faut l'approfondir au fur et à mesure. Les outils qu'on a aujourd'hui peuvent être, on va dire, désuètes d'ici demain. Donc, c'est une question qui est véritablement à prendre en compte quand on parle de l'éducation médiale et l'information. Il n'y a pas un domaine qui est spécifiquement clos en lui-même, mais tout est en perpétuelle évolution. Et donc, quand on aborde la question de l'esprit critique, il faut véritablement prendre en compte que nous sommes dans un domaine évolutif.
Mmh. Oui.
Ce que je peux dire déjà, l'esprit critique, c'est l'esprit d'analyse. C'est l'esprit de discernement entre griffes, parce que c'est cette capacité-là qui nous permet à pouvoir interroger tout ce qu'on a en face. Ça ne veut pas dire qu'on réfute tout, mais on se dit, attention, il peut y avoir un biais. Parce que les biais aussi font partie, on va dire, des éléments assez fondamentaux de l'esprit critique. Parce qu'on se dit, un individu ne peut pas tout connaître à la fois. Et il peut y avoir des biais, notamment les biais de confirmation. Fulgence, en tant qu'une personne avec qui je travaille, peut me donner une information pensant que l'information, elle est vraie. Mais comme je me dis que Fulgence, c'est quelqu'un de confiance, peut-être c'est mon responsable, je crois automatiquement parce que l'information vient de Fulgence. Alors que Fulgence étant un individu, Fulgence peut se tromper. On dit que l'esprit critique, on ne développe pas son esprit critique en une fois. C'est un exercice qui est continu jusqu'à sa mort, entre griffes. Parce que aujourd'hui, oui, par rapport à telle situation, je peux avoir des réflexes de dire, attends, je vais vérifier. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si on joue avec mes émotions et que face à mes émotions, je ne suis pas capable de pouvoir prendre du recul et me dire, attention, il peut y avoir de la manipulation, automatiquement, je perds cet esprit critique-là. Donc, c'est vraiment cette capacité-là à pouvoir s'interroger, analyser tout ce qu'on a en face. Et de façon générale, ce qu'on dit aux jeunes, c'est que lorsque vous avez une information devant vous, la première des choses, demandez-vous, quel est le but de celui qui m'envoie l'information? Parce que c'est ça. Peut-être que son intérêt, c'est de me manipuler. Peut-être que son intérêt, c'est de m'emmener à pouvoir poser un acte. Surtout quand on va rentrer dans le domaine commercial. Quand on m'envoie un lien, on me dit Orange, pour ne pas faire de publicité. Quand on me dit qu'une entreprise est en train de faire de la promotion et que dès que je clique sur le lien, j'ai 50% de giga. Je vais me demander, mais attends, qu'est-ce que la personne veut en m'envoyant ça? Peut-être que c'est de juste pouvoir voler mes données, parce qu'après, on sait que derrière tout ça, il y a des individus qui collectent nos informations afin de pouvoir les vendre à des entreprises. Donc, c'est aussi ce qu'il faut pouvoir se poser. Qu'est-ce que la personne veut en m'emmenant peut-être à cliquer sur le lien ou en m'emmenant à partager cette information que j'ai? Est-ce que cela n'aura pas un danger? Et même quand parfois l'information elle est vraie, il faut aussi pouvoir se dire, est-ce que cela n'aura pas une répercussion négative sur la société? Donc c'est ce que l'esprit critique nous permet de pouvoir faire afin de pouvoir en tout cas prendre de façon rapide des décisions assez responsables et de façon raisonnée.
Alors, on va prendre des exemples concrets pour le cas de WhatsApp, par exemple, où on est très souvent, on fait partie de plusieurs groupes, on reçoit fréquemment des informations, des liens. Alors, pour ce cas échéant, quelle est l'attitude à adopter, hein? Sûrement, comment vous échangez avec les bénéficiaires pendant vos formations et quels conseils vous donnez pour le cas typiquement de WhatsApp?
Généralement, pour WhatsApp, il est recommandé de véritablement faire attention déjà de prime abord à la nature du contenu qui nous est proposé. Étant donné que c'est un réseau social un peu particulier, c'est on va dire entre proches, l'information ne fuse pas de façon ouverte, de sorte à ce que beaucoup de personnes puissent interagir là-dessus. C'est entre nous et la personne qui nous envoie le message. Et donc, l'attitude à adopter dans ce contexte précis est de prendre du recul d'abord. Il faut avoir du recul par rapport au contenu qui nous est proposé. Et si ce contenu-là, à l'analyse, ne paraît pas véritablement fiable, on peut nous-mêmes soit se référer à une personne qu'on juge assez mature pour nous conseiller là-dessus et à la suite de cela prendre la bonne décision.
Oui, Aristide Kanga.
De façon pratique, moi ce que je dis aux gens, surtout que maintenant avec Meta, oui, les choses évoluent très rapidement. Vous avez un contenu qui vous est envoyé. Maintenant, vous avez la possibilité de savoir si ça a été envoyé à plusieurs personnes. On vous mentionne en haut, envoyé plusieurs fois. Et donc déjà, nous on dit aux gens, une fois que vous voyez un contenu qui a été partagé plusieurs fois, ça peut être vrai. Mais ne prenez pas le risque de rentrer dans certains jeux, ne partagez pas. Il faudrait que vous soyez cette rupture-là entre ceux qui vont croire, qui vont avoir des comportements qui ne seront pas assez positifs, qui malheureusement vont créer peut-être des dommages, et puis ceux qui n'auront pas cette information parce que vous ne leur aurez pas permis de pouvoir avoir accès à ça. Donc, il y a déjà ce premier point. Et puis, sur WhatsApp, ce que moi, j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de liens. Les liens sont partagés de façon, en grande quantité sur WhatsApp.
Et à volonté.
À volonté, merci, à volonté, sur WhatsApp. Donc, ce n'est pas surtout les liens qu'il faut forcément cliquer. Il y a des pièges à cliquer. Quand vous cliquez, comme je l'ai dit, c'est peut-être pour voler vos données. Ou si on ne veut pas voler vos données, c'est peut-être pour pouvoir... il y a des cybercriminels qui sont par derrière. Donc, il ne faut pas cliquer sur tous les liens. Moi, aujourd'hui, quand une personne m'envoie un lien, je demande à la personne qu'est-ce qu'il y a dans le lien. Parce que je suppose que tu as regardé. Donc, dis-moi, si ça m'intéresse, par exemple, ça concerne une entreprise, je vais sur la page d'une entreprise directement. Et donc, moi, quand je fais mes formations, ce sont ces genres de reflets que je demande aux gens de pouvoir avoir. Tu reçois un lien, tu n'es pas obligé de cliquer. Quel est ce niveau de curiosité-là qui t'emmène à regarder tout? Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a le biais de confirmation. Et ce biais de confirmation, généralement, intervient dans notre entourage. Parce que peut-être c'est mon papa qui m'a envoyé, c'est ma maman qui m'a envoyé, c'est ma soeur, c'est ma cousine. Donc, c'est très facile. Et donc, je dis aux gens, ne rentrez pas tout de suite, n'engagez pas vos émotions. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, ne mettez pas vos organes. Calmez-vous d'abord quand vous recevez l'information. Si vous avez, on vous dit c'est quoi, allez directement sur la plateforme de cette entreprise, de cette organisation. Et là, vous avez toutes les informations nécessaires. Ne vous pressez pas. Il n'y a rien dans la précipitation. Bien au contraire, il peut y avoir des problèmes.
C'est cela, ouais, bien sûr. Alors, on va chercher à joindre notre deuxième bénéficiaire, c'est Miss Ouattara Karine. Voilà, le temps de la contacter. On pourra aussi aborder, justement, toujours dans le cas des conseils. Hein, c'est important. On a parlé du cas de WhatsApp. On a aussi... pour cette information et puis la nuance aussi qu'il faut faire entre les producteurs de contenu, les journalistes, vous en parliez à l'instant. Alors, comment est-ce que vous adressez ce sujet-là à l'endroit des jeunes?
Un journaliste, c'est un professionnel du domaine des médias qui, avec, on va dire, la formation qu'il a reçue, connaît les codes éthiques et déontologiques. C'est vrai, il peut y avoir par moment des écarts dans la manière de fonctionner parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir aussi pointer du doigt le fait de comprendre comment est-ce que le média est financé. Le financement du média peut aussi parfois jouer sur la manière dont le média ou le journaliste va pouvoir produire son contenu. Parce que si c'est moi, Aristide, qui produit votre, qui finance votre média, mais vous n'allez pas faire des choses qui me dérangent, absolument pas. Donc parfois, ça peut être des biais qui vont faire que parfois les journalistes peuvent produire du contenu avec qui par moments seront peut-être la propagande, une manière de pouvoir influencer le choix ou l'opinion du lecteur. Le créateur de contenu, il peut en soi être un professionnel, mais il n'est pas un professionnel de l'information comme le journaliste. Peut-être je peux être créatrice de contenu. Par exemple, mon contenu concerne la promotion des médias ou bien peut-être la promotion d'un produit, d'un service et autres. Et donc, par rapport à ce domaine-là, j'ai cette capacité-là à pouvoir, avec les techniques et tout ça, j'arrive à pouvoir produire du contenu, à pouvoir le faire. Mais ils ne sont pas les professionnels du domaine de l'information. Ce domaine-là, il est bien précis, il est réservé aux journalistes. C'est vrai que de plus en plus, on voit des personnes qui viennent sur les plateformes pour venir donner peut-être des informations et tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais à mes formés, je leur dis toujours, quand vous voulez avoir une information, parce qu'une information, elle a des caractéristiques. Elle est basée sur un fait vérifié, vérifiable, et elle a de l'intérêt pour le public. Du moment où ces différentes caractéristiques sont regroupées, là, on a affaire à une information. Et celui-là qui est dans la posture du professionnel, qui est à mesure de pouvoir respecter peut-être toutes ces différentes... de me présenter l'information comme il se doit, c'est le journaliste, parce que lui, il a appris ça. Même dans la structure, même la manière même de donner l'information. Quand vous prenez un papier journal, vous savez que ça, c'est un journal qui a été fait par un professionnel. Et quand vous voyez les autres contenus, bon... Après, je ne dénigre pas cela parce qu'eux aussi font du très bon travail. Mais c'est pourquoi l'éducation aux médias vient, pour leur dire, attention, vous n'êtes pas des professionnels du domaine, mais par moment, vous produisez du contenu. Parce que de façon générale, on est tous producteurs et consommateurs de contenu, mais pas au même titre les uns aux autres. Donc attention à ce que vous faites. Est-ce que vous, même dans votre manière de pouvoir donner le contenu, vous ne pourrez pas être, par exemple, assez responsable? Il faudrait que votre contenu puisse respecter un certain nombre de choses. Il ne faudrait pas que vous... C'est vrai que peut-être vous recherchez beaucoup de personnes, beaucoup de followers, mais faites attention parce que ce que vous faites pourra peut-être avoir un impact négatif. On a l'exemple de la coach Amon Chik avec la question de la bétadine. Elle n'est pas médecin. Mais elle a donné cette information d'après elle aux femmes, cette astuce aux femmes. Et moi, j'étais dans les commentaires, j'ai vu que beaucoup de femmes disaient, ma coach, t'inquiète, moi, j'ai déjà essayé, moi, je vais essayer. Vous voyez, il y a un problème. Et donc, eux, par exemple, on essaie aussi, les créateurs de contenu, de les sensibiliser. Attention, lorsque vous voulez parler de certains sujets, allez vous informer sur ce sujet, parce que c'est ce que les journalistes font. Ils vont s'informer sur le sujet avant de parler de ça. Donc, vous pouvez parler parce que les réseaux sociaux, ce sont des plateformes libres. Mais faites attention à ce que vous dites parce que vous pouvez induire des gens en erreur ou créer des tensions, des conflits, on ne sait jamais.
Et il y a des sanctions justement liées à ce genre d'action. Alors on va aller en ligne, oui, avec Miss Ouattara Karine. Elle est là, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Oui, je vais bien, vous?
Ça va très bien. Alors vous allez aussi nous parler de votre expérience à l'éducation aux médias et à l'information, mais plus précisément, on veut savoir désormais comment vous vous comportez en ligne face à l'information et face aussi aux nouveaux médias.
D'accord, merci beaucoup. Déjà, avant d'entendre parler de l'IM, il faut dire que on a quand même partagé pas mal de fausses informations autour de nous, que ce soit en ligne ou pas. Mais maintenant, avec les formations que j'ai reçues sur l'éducation aux médias et à l'information, je peux dire que maintenant, je prends le temps d'analyser chaque information que je reçois. Je cherche à savoir d'où vient l'information en question, qui l'a reçue et les sources.
Oui, ça c'est vraiment une attitude clé que vous adoptez désormais, chaque matin.
Oui, je suis quand même devenue assez responsable par rapport à l'utilisation des médias.
Ouais.
Et il faut dire que je clique plus sur n'importe quel lien que je reçois, que ce soit sur Facebook ou sur WhatsApp.
Oui, et puis comment est-ce que vous partagez votre expérience aux autres aussi, hein, à côté de vous?
Bon, déjà, c'est du bouche à oreille, si je veux dire. Lorsque je reçois une information, que ce soit d'un ami ou de la famille, je leur demande toujours qui leur a dit. Est-ce que la personne qui leur a dit est une source sûre? Pour qu'eux aussi, ça puisse créer quelque chose en eux, et ne pas qu'ils aient à partager des informations qui s'avèrent être fausses.
C'est ça. Alors, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience.
Merci
infiniment et puis agréable journée à vous.
Merci à vous aussi.
Merci. Alors, voilà, nous allons revenir pour conclure. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Ça va
déjà
tellement vite. Alors, Fulgence Kofi.
Oui.
Alors, nous nous acheminons vers une période électorale. 2025, ce sera très chargé politiquement. Et déjà, même là, on a la révision de la liste électorale. Alors, comment est-ce que vous orientez vos actions dans cette période-là, et surtout maintenant, là, pour la révision de la liste électorale et puis pour l'année électorale 2025 qui s'annonce?
D'accord. Nos activités en ce qui concerne la période électorale et déjà cette période d'enregistrement sur la liste électorale, il y a beaucoup d'activités qui sont prévues. Déjà pour l'année électorale, il y a tout un programme que nous allons déployer. Il y a des séances de sensibilisation, de formation qui seront initiées par les bénévoles de l'éducation aux médias et à l'information. Et ça sera sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et donc là-dessus, nous sommes toujours en préparation avec les modules pédagogiques que nous sommes en train de finaliser. Et je pense bien que ça sera vraiment l'opportunité pour les BEMI d'apporter leur pierre à l'édifice de manière à ce que nous allions vers des élections véritablement apaisées.
Oui. Alors à vous, Aristide Kanga, il y a la question électorale, mais il y a aussi la question de l'extrémisme violent
qui bat
son plein aujourd'hui dans la sous-région.
Effectivement. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles, personnellement, moi-même, j'ai décidé de pouvoir vraiment m'engager sur les questions de l'EMI, parce qu'on ne se rend pas compte des conséquences de l'impact de l'extrémisme violent. Ici, quand on est à Abidjan, on n'a pas trop l'impression, on va dire, le sentiment de cette pression-là que les autres rencontrent, par exemple, lorsqu'ils sont à l'intérieur du pays et tout ça. Et donc, nous, par exemple, dans notre manière de faire, on essaie de pouvoir quand même aider les jeunes, de ne pas forcément rester à Abidjan, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de difficultés, notamment financières. Mais dès qu'on a la possibilité de pouvoir aller vers les jeunes, que ce soit à Abidjan, que ce soit à l'intérieur du pays, nous le faisons. Mmh. Parce qu'on n'a peut-être pas conscience de ça. Bon, les jeunes n'ont peut-être pas conscience de ça, mais ce qu'on fait généralement sur les réseaux sociaux a un impact réel sur nos communautés. Et donc, on essaie quand même dans notre démarche, dans notre manière de faire, de dire aux gens, attention, peut-être que toi, tu as eu à dire quelque chose de façon banale pour parler de l'extrémisme violent. Tu as eu à te prononcer sur ce que tu penses. Mais tu ne sais pas qui t'écoute, tu ne sais pas comment est-ce que cela est perçu et quelles sont les répercussions que cela a. Et peut-être pour revenir sur un point, les questions de conflits interethniques, les conflits religieux par moment que nous avons, surtout interethniques. Mmh. On a tendance parfois à indexer telle communauté ou X communauté sur les réseaux sociaux. Mais demain, lorsqu'on se retrouve dans ces communautés-là, quand il y a des problèmes et qu'on a commencé sur les réseaux sociaux et qu'il y a une petite tension dans ces communautés-là, mais tout ça rejaillit. Parce que celui-là, qui n'est même pas peut-être de la région, a eu à dire quelque chose, qui a indexé, tout le monde s'est acharné sur cette communauté-là. Demain, quand il y a des problèmes, mais ça, on n'arrive plus à canaliser les gens. Et donc, dans notre démarche, en tout cas, on essaie de pouvoir dire aux gens, soyez responsables. Et Dieu merci, je crois qu'avec toutes ces règles qui sont là, depuis 2013, on a la loi sur la cybercriminalité, aujourd'hui même, avec le code qui a été pris, je crois que c'est l'année dernière avec la AK, où ils ont eu à travailler avec les blogueurs.
Les influenceurs et les blogueurs.
Voilà. Donc je pense qu'avec tout ça...
La charte de bonne conduite.
La charte de bonne conduite. Avec tout ça, je pense que les gens vont apprendre à être beaucoup plus responsables, parce qu'on dit, nul n'est sans ignorer la loi. Et pour ne pas subir, on va dire, les sanctions de la loi, nous, ce que nous faisons, nous nous saisissons de tout ce qu'il y a, code, charte et tout ça, et nous informons les populations pour ne pas que, dans leur manière de faire, ils puissent en tout cas avoir des problèmes avec la loi. Et puis malheureusement, c'est un peu dommage de voir un jeune qui dit, moi je ne savais pas, mais malheureusement, tes actions t'ont conduit là où ça t'a conduit.
En un mot clé, pour terminer, en termes de valeur, un petit mot qui peut résumer tout ce qu'on a dit, Fulgence Kofi.
Responsabilité,
et vous?
Bon, j'allais aussi dire responsabilité, mais allons sur esprit critique.
Esprit critique,
oui.
Responsabilité et esprit critique, en tout cas, c'est ce qu'il faut que la jeunesse mette en avant pour justement ne pas tomber dans les travers de ces nouveaux médias et aussi ces outils. Mais il faut avoir un bon usage et ça passe par l'éducation aux médias et à l'information. C'est une action que vous menez au quotidien à travers votre association, les bénévoles de l'EMI, les bénévoles de l'éducation aux médias. et à l'information. On recevait aujourd'hui Kangan Guessant, Amoué Aristide et puis Fulgence Kofi, voilà, qui font partie de cette association, les bénévoles de l'éducation aux médias et à l'information. Et on va se dire au revoir avec ce titre de Kajim 2.0.
Derrière ton clavier, fais du mal aux gens, tu ne peux t'empêcher. Un jour viendra où tu devras payer pour tout le mal que tu n'as cessé de causer. Toujours caché derrière ton clavier, fais du mal aux gens, tu ne peux t'empêcher. Un jour viendra où tu devras payer pour tout le mal que tu n'as cessé de causer. Tu es tout feu et tout flamme, tu es dans la vie des gens, tu en connais même la femme. Sur internet t'as déjà provoqué des drames. Je te le dis rude boy, il va falloir que tu te calmes. Blablabla, tu es dans toutes les affaires. Les gens portent le pantalon, fais quoi que ça sert. Que ça te concerne ou pas, tu n'arrives pas à te taire. Peux-tu me dire que tu n'as vraiment rien à faire? Let me know, pourquoi es-tu si méchant? Tu fais du mal à tant de gens. Tu t'en prends à des pauvres.